A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 27 qui démarre à Chartres et qui va nous mener à Pontgouin. Si tout se passe bien, toujours en Eure-et-Loire. Je vous ai laissé devant la cathédrale de Chartres en vous disant « J'espère avoir une bonne surprise. » Et ben... Et ben j'ai eu une bonne surprise. Laurent est venu me rejoindre et voilà, c'était mon plus bel anniversaire.
Vas-y, tu n'en dirais pas.
Je sais pas comment je vais faire pour tenir un mois encore.
Bah, ça va être dur. Il va falloir que tu te détaches de ta vie
familiale
et que tu marches tel un ermite. Je vais où je veux aller, j'y vais, tout va bien, je n'ai besoin de personne. Sinon, ça va être dur, hein.
Ben ouais, mais j'ai besoin des autres.
Ben, tu rencontres plein de gens, ça devrait te nourrir et...
Ah oui, ça me nourrit, mais...
Ah là là.
Pas pareil que toi.
Ah, c'est autre chose.
Pas pareil que les enfants. Voilà. Donc, vous l'avez compris, la surprise était partielle parce que c'était un peu prévu, mais bon, il pouvait toujours y avoir un empêchement. Laurent pouvait avoir une émission en direct le dimanche. Donc, on s'est baladé dans Chartres. T'as découvert la cathédrale. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, c'est magnifique. J'ai pris plein de photos. J'ai regardé beaucoup quand même. Non, non, c'est très, très beau. Surtout la clôture, j'ai adoré ça. La clôture
sculptée
du cœur.
Ouais.
Sculpté qui fait comme une grande BD sur la vie de Jésus, on fait tout le tour, non, c'est super.
Et puis le bleu de Chartres, toi qui as fait histoire de l'art.
Oui, mais alors c'est pas une période que j'ai beaucoup étudiée ça, ah. Moi c'était plutôt Trecento en Italie, mais non c'est très beau. Un peu loin, il faudrait monter dans les étages pour voir tous les vitraux, mais on n'y a pas accès j'imagine, ou c'est... on n'a pas demandé. Puis il y avait une messe quand on est arrivé, donc on était discret.
Je crois qu'il y a à peu près 2600 m² de vitrail. Et puis après, on est allé voir la maison de Picassiette.
Oui, alors ça, j'adore ce genre de maison de personnages un peu comme le facteur cheval, un peu simple et qui passe sa vie à aménager sa maison à son goût. Et là, c'est avec que de la faïence. Il y a une maison à roc vert comme ça aussi qui donne sur la rue. On la voit vraiment au centre de la ville. Là, il faut vraiment aller chercher. C'est un petit quartier pavillonnaire assez excentré. Mais c'est très, très bien fait avec beaucoup de goût et c'est assez étonnant, quoi. Une toute petite maison entièrement du sol au plafond, le jardin, tout est pensé, calculé. Un goût de... Il fait des représentations architecturales très précises. Autant les personnages sont un peu naïfs, autant l'architecture, ils maîtrisent bien. Non, c'était super.
Moi, j'ai eu qu'un regret, c'est que j'aurais aimé interviewer Raymond Isidore. Bon, c'est difficile puisqu'il est mort en 1964, mais...
Mais je suis née en 1964, donc tu vois...
C'est ça. J'ai trouvé que c'était
ouais.
Une belle histoire.
C'est ça.
Bon, ma chérie, bah, je te laisse rentrer à la maison. Et puis moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être rester à Chartres.
Non. Tu t'ennuierais assez vite.
Ouais.
Je pense que c'est bien de partir.
Non, c'est ça. C'est pas que c'était... Je vais peut-être monter dans la voiture avec toi pour rentrer à la maison.
Non, non. Tu vas jusqu'à Brest.
Ok. Bon, merci en tout cas. Me permettre de vivre ça, même si c'est douloureux pour moi.
Ok. Respire un grand coup.
Est-ce que tu as retenu une rencontre particulière dans ce premier mois de cheminement?
J'ai beaucoup aimé le chien qui ronflait, je ne sais pas où.
Ah oui.
Et j'ai trouvé un très beau ronflement de chien. Non, sinon j'aime bien les rencontres impromptu, genre le couple qui t'a arrêté spontanément pour t'emmener, parce qu'il pleut quand même beaucoup en ce début de podcast, je dois dire, et n'hésite pas à prendre des voitures, ça va te soulager un petit peu. Le couple, donc lui, je ne sais plus ce qu'il faisait, mais sa femme, elle travaillait avec la police scientifique. Et voilà, ils étaient jeunes, sympas, et voilà, ils avaient plein d'envie, c'était sympa.
Louis et Sarah. Et c'était à Ciré-sur-Blaise, justement là où la transversale a croisé ma diagonale. Eh bien, je te fais un gros bisou.
Allez, bon courage comme te disent les vieux, bon courage.
Ciao. Que me dit ce rossignol? Il me dit, ne pleure plus, avance mon garçon, avance. Et voilà, Lorane est reparti. Et moi je reprends mon chemin, dans le vent, avec mes émotions. Oh là là, ça souffle. Hein. Il y a du ciel bleu, des nuages. On voit des taches sombres qui avancent vite sur le sol. C'est l'ombre des nuages qui sont poussés par le vent. Et je suis sur un chemin de terre. J'ai traversé Saint-Tré. Et là, je suis de nouveau en pleine nature, avec des éoliennes au loin. Et c'est incroyable, ces larmes qui sont là. Je suis le petit garçon de 8 ans, de 12 ans, qui est, on peut dire, abandonné par sa mère, parce que j'ai jamais eu ça, mais quand ma mère m'accompagnait dans ce home d'enfant, là, puis qu'elle me laissait là pour faire ma cure, bah, et les larmes qui étaient là, et le désespoir, je sens que ces émotions-là remontent jusque-là. J'ai souffert de cette séparation enfant, et là, c'est moi qui me l'impose. De revivre à 62 ans des émotions de mon enfance, qui m'est jamais apparue comme une enfance traumatisante, même si je vivais mal la séparation quand je devais quitter mes parents ou quand ma mère devait me laisser quelque part. Je pourrais rester à la maison, dans mon petit confort, mais non, j'ai besoin de prendre cette distance, de trouver peut-être la bonne distance. Alors pour ceux qui veulent savoir où j'ai logé à Chartres, bah, on a choisi un hôtel, on a voulu se faire plaisir. Eh ben, je suis bien plus heureux chez l'habitant, je peux vous le dire. Donc, je ne donnerai pas le nom de l'établissement pour pas leur nuire. Oui, quand on est allé visiter la maison Picassiette avec Lorane, et j'ai rencontré Sarah qui avait 30 ans et qui travaille depuis 2 ans dans la maison et qui m'a raconté l'histoire du lieu.
La maison Picassiette, c'est une œuvre d'un homme, Raymond Isidore, qui a construit sa maison où il a vécu, mais il l'a recouverte entièrement de mosaïques.
Qu'est-ce qui vous touche dans cette maison ?
C'est vraiment quelque chose d'une très grande créativité. En fait, Raymond Isidore, c'était quelqu'un de très simple, qui a travaillé toute sa vie. Il a eu juste le certificat d'études, du coup, à 13 ans. Mais après, il s'est découvert vraiment un talent à faire cette mosaïque. Il voulait simplement décorer sa maison. Et vraiment, il s'est exprimé. C'est vraiment super touchant, parce qu'il a mis beaucoup de beauté, des fleurs, des animaux, sa foi aussi, sa foi chrétienne. Et ça s'est vraiment développé, on voit vraiment que ça s'est développé au fil du temps, au fil de ses constructions. Donc c'est vraiment touchant parce que c'est un travail personnel.
Comment vous en êtes venu à travailler ici, vous ?
Parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup, en fait. Donc j'ai découvert, je suis chartraine, hein, du coup je l'ai découverte étant enfant et redécouverte étant adulte. Elle m'a beaucoup touchée en étant adulte et du coup bah, j'ai voulu y travailler. Comme j'ai une formation dans le tourisme, j'ai postulé tout simplement et j'ai été acceptée.
Parce qu'il faut préciser que Raymond Isidore, il a vécu toute sa vie à Chartres.
Exactement, oui. Il a juste fait un service militaire qui l'a emmené en Allemagne.
Quel est votre rêve, Sarah ?
Promouvoir le plus possible la maison Picassiette, faire découvrir à quel point c'est joli, en fait, c'est touchant. Et parce qu'en fait, comme c'est une œuvre d'art brut, parfois les gens passent à côté. En plus, elle est excentrée, elle n'est pas à côté de la cathédrale. Donc souvent, les gens sont curieux. Parfois, ils ne connaissent pas du tout et ils sont un petit peu, ils ne sont pas forcément intéressés. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment les pousser à découvrir ce lieu parce que ça serait dommage de passer à côté.
Quelle est la pièce qui vous touche le plus dans cette maison ?
La chapelle bleue. C'est celle qui est la plus, pour moi, la plus touchante, parce que en fait, c'est le premier lieu que Picassiette a construit après sa maison. Donc c'est vraiment le premier lieu qu'il a construit pour la décorer et pas simplement pour l'utilité. Et c'est vraiment là où il exprime toute sa foi, en fait, et toute sa créativité. Donc j'aime beaucoup ce lieu, parce qu'en fait, il est touchant, il respire la joie de vivre et la bonté, la simplicité. En fait, il vous montre qu'on peut être heureux sans forcément courir après le succès social.
Combien de temps il a mis pour construire sa maison ?
Alors, il a commencé en 1938 et il a terminé en 1962. Ça, c'est juste pour la décoration. Après, pour la construction de la maison en elle-même, il a commencé en 1930 et il a terminé en 1931.
Et donc, à partir de 1931, il a vécu là avec sa femme Adrienne, qui avait déjà 3 enfants. Et il a élevé un peu les trois enfants. Et il n'a pas eu d'enfants, lui.
Exactement, oui. Il a élevé les trois enfants de son épouse, du coup, qui était une veuve. Mais ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Mais après, du coup, les descendants, du coup, donc c'est les enfants de sa femme, ils ont toujours gardé un souvenir heureux, en fait, avec lui.
Et à partir de quand il a été reconnu à Chartres? Parce que je pense qu'au début, tout le monde devait se dire que c'était un fou, quoi.
Alors oui, ça, il a toujours une réputation de son vivant un peu de fou, entre guillemets, entre fou et génie, en fait. Donc, on appréciait beaucoup son travail, mais après, le côté où tout était coré à l'intérieur, même le mobilier, ça avait un côté un petit peu obsessionnel qui parfois repoussait. Il a été connu quand il a commencé la décoration extérieure de la maison, du coup, après 1945. Et c'est en 1952 qu'il y a une revue qui s'appelle Radar qui a été interrogée. C'est là où il a eu une réputation plutôt, pas internationale, mais au-delà de la ville de Chartres.
Et petite précision, Robert Doisneau a contribué à la notoriété de Raymond Isidore, car il l'a photographié en 1953 dans sa maison, là, à Chartres. Et Raymond Isidore, dit Picassiette, le Picasso des assiettes, est décédé à 64 ans. Il était né en 1900. Je remercie Sarah de nous avoir fait visiter la maison en ce dimanche après-midi. Eh bien, c'était une belle découverte que ce lieu, très touchant. Par son côté minimaliste, autant le palais du facteur cheval, c'est beaucoup plus majestueux, si je puis dire. Là, c'est tout petit. Moi, j'étais obligé de me baisser parce qu'il n'était pas grand, le Raymond. Les portes étaient petites. Ça faisait un petit peu maison de poupée. Alors, j'espère que vous avez eu la Gazette, parce que quand même, bel effort de Léonard, qui, pendant ses vacances, a écrit la Gazette. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur le site de saintjacquescompostelle.com. J'ai reçu un message de Chloé. Bonjour Hervé, tiens, je passe par Chartres dans quelques jours à pied depuis Paris. Car tu m'as inspiré lors de ta première balado. Je me suis promis que lorsque je quitterai Paris pour rejoindre mon sud-ouest natal, je le ferai à pied, par le même chemin que toi. Je pars le 27 avril de la Tour Saint-Jacques avec un mélange de peur et d'excitation. Aujourd'hui, si je dois répondre à ta question « Quel est mon rêve ?», je te répondrai que mon rêve depuis 3 ans est sur le point de se réaliser. Tout quitter et oser partir seul à l'aventure. Je te remercie de m'avoir insufflé cette folle idée, mais aussi pour le travail que tu fais, que j'adore écouter. Bonne marche. Eh ben merci Chloé, et bon chemin, et que le vent te porte. Moi, ouais, j'ai le vent dans le nez, là. Il me freine. Il me renvoie vers l'Oran. Il me renvoie vers la maison. Je suis obligé de lutter pour avancer. Mais je suis content, j'ai un hébergement. Donc... je marche serein, je longe une voie ferrée, et ça souffle. Je fais 3 pas, je recule de 2. Si je tends le bras derrière, Laura ne peut attraper ma main. C'est une image. À la vitesse où elle roule, elle est déjà de retour à la maison. Alors mes enfants étaient vexés parce que j'ai dit non, j'ai envie d'avoir juste 2 jours avec maman. Ben là, nous, on voulait venir. Enfin, certains pouvaient, d'autres pas, puisque c'est les vacances. Alors, je vous présente mes excuses, les enfants, mais j'avais vraiment besoin d'être seul, de pouvoir parler tranquillement, de cœur à cœur. Et c'était un vrai bonheur. On se refera des moments tous ensemble. Et là, le chemin longe une départementale qui a des allures de nationale. Eh ben... 3 heures que je marche face au vent, j'ai croisé personne, enfin personne, un agriculteur sur son tracteur qui rentrait pour déjeuner, je me suis dit je vais pas le déranger, et moi j'étais là avec mes émotions à marcher face au vent. Et ben, si c'est comme ça jusqu'à Brest, hein, ça va être fatigant, ça souffle. Un champ de blé sur ma gauche qui est balayé par le vent, fait des vagues comme ça jusque pour aller se jeter dans un champ de colza, et à ma droite, beaucoup plus petit, un champ d'orge, un vert plus clair, des feuilles plus fines. Et oui, moi j'ai retenu la leçon de Pascal, hein, il m'a expliqué très gentiment, il m'a envoyé un message en me disant que si je voulais faire un tour en Porsche, je pouvais l'appeler. Ah, peut-être que là, avec le vent, s'il venait avec la Porsche, il pourrait m'emmener direct à Brest. On fait la photo, on la met sur Insta, et puis basta. J'ai traversé l'Oulap, Donc j'arrêtais pas de faire bibop. J'ai longé l'heure hein, avant de la dépasser. Et puis là, je viens de traverser Lancer. Tous ces villages où j'ai croisé personne. En plus, avec un ciel gris. Oh, quelques petites gouttes. Ça me manquait, ça, quand même. Si vous voulez anticiper mon chemin, je vise Mayenne pour le week-end prochain. Il pleut, c'est la tempête. Et alors là, je suis devant l'éco-hameau du Plessis. L'éco-hameau du Plessis est un habitat participatif écologique qui rassemble 28 foyers et comprend 4 hectares de jardins collectifs en permaculture, plusieurs bâtiments communs et des maisons écologiques individuelles. Par la mutualisation, l'entraide et le partage, il devient plus simple de consommer moins, de construire moins, de produire une partie de sa nourriture, mais aussi de s'organiser collectivement pour plus d'autonomie. Maisons écologiques, phytoépuration, toilettes sèches, bâtiments communs, toutes ces réalisations sont le fruit de la coopération entre les membres du projet. Il pleut de plus en plus fort, je vais rentrer dans cette maison qui a l'air en chantier.
Ah ben, monsieur, qui est en train de travailler, excusez-moi, est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Abel.
Abel, est-ce que vous pouvez me décrire cet endroit qui est si particulier ?
L'éco-hameau du Plessis, ben c'est particulier. Pourquoi ça vous paraît particulier, pardon ?
Parce que on arrive sur un terrain, il y a plein de maisons en bois, aucune clôture, et puis j'ai appris qu'il y avait un grand bâtiment qui était en train de se construire, qui est la maison des aînés pour accueillir les anciens. Là, je suis rentré me mettre à l'abri, c'est la maison commune, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler là.
C'est ça.
Et donc, moi qui traverse la France à pied, j'ai encore jamais croisé ce genre d'installation.
Ouais. Mais du coup, ici, il y avait l'ashram déjà, le centre-ama. Et du coup, il y a pas mal de gens qui sont venus habiter à côté du centre-ama. Et il y en a quelques-uns qui ont voulu habiter proche. Et en plus, dans une logique écologique et participative.
Vous, concrètement, vous veniez d'où avant d'être ici ? Ouais.
Moi, j'habitais dans l'Oise. Et j'ai rejoint le projet en cours, en fait. Enfin, pas avant qu'on construise, mais juste avant qu'on commence à construire, quoi. Mais il y avait déjà eu 4-5 ans de réflexion.
Et vous avez déjà construit votre maison, vous, alors ?
Voilà, c'est celle qui est là-bas, ma maison.
Avec les tuiles rouges ?
Non, à côté.
Ah, à côté, ouais,
avec les toits végétales.
Ah oui, d'accord. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer là ?
Bah là, moi, je venais de temps en temps déjà au centre-ama, là, la ferme du Plessis. Et puis, en plus, j'étais dans une démarche où je voulais déjà habiter dans un écolieu, un habitat partagé. Et on s'entendait finalement pas trop avec l'autre groupe. Et puis donc ici, on connaissait quelques personnes, la philosophie nous plaisait. Et puis le fait que ça soit assez grand aussi, ça donne quelque chose de plus cosmopolite, ça fait que... À 30, bah, si on ne s'entend pas avec une personne, c'est moins grave que quand on est trois foyers. Quoi. Voilà. Il y avait aussi le côté... en fait, on a des parcelles qui nous appartiennent. Et après, il y a une grande parcelle commune. Donc, on n'est pas complètement en communauté. On n'est pas complètement en vie individuelle. On est entre les deux. Et là, c'était le bon compromis pour nous.
Qu'est-ce que vous avez comme contrainte ?
On doit travailler un petit peu, ouais. Pour moi, par exemple, je participe largement assez, mais on a quand même mis un horaire de 2 heures par semaine, quelque chose comme ça. Mais sinon, moi, j'ai pas à compter parce que entre les réunions, les tours de la pelouse, faire les travaux pour la maison commune, ouais, j'ai pas à compter. Quoi.
Parce que alors ça, concrètement, pour la maison commune, vous faites quoi aujourd'hui ?
Ah, moi, particulièrement, je suis menuisier charpentier, donc j'ai construit. L'ossature avec mon entreprise, mais après tout le second œuvre, on l'a fait avec les voisins en autoconstruction.
Mais alors, donc avec votre entreprise, c'est l'éco-village qui a payé cette construction, qui vous a payé pour le faire, quoi. C'est
voilà.
Ça
ouais. Ouais.
Et alors cet éco-village, il y a un maire, il y a comment il se dirige ?
Non, il y a un comité de pilotage avec 7 personnes. Et après, il y a des pôles, pôle espace non bâti, pôle travaux, pôle gouvernance.
Et aujourd'hui, il y a encore des places de libre ? Si moi, j'ai envie de venir m'installer, comment ça se passe ?
Oui, il y a encore des places de libre. Il y a quelques terrains qui sont encore à vendre et il y a quelques terrains qui sont à vendre par des gens qui avaient le projet, mais finalement ils ne l'ont pas fait parce que le temps est passé, ils ont eu d'autres projets, enfin ils vendent leur parcelle.
Quel est votre rêve, Abel ?
Bah, le rêve, il est là, ouais. Non, je vis mon rêve, il n'y a pas de...
Parce que vous y pensiez à ça avant ?
Ouais. Déjà à 15 ans, j'avais l'idée de vie communautaire.
Ah oui ?
Ouais, vers 15 ans. Ouais.
Et aujourd'hui, vous avez quel âge ?
42.
Cette vie dans ce village, dans cet éco-village, correspond à ce que vous imaginiez ?
Non, je ne pouvais pas imaginer la complexité humaine à 15 ans. Non, c'est plus complexe. Mais du coup, c'est encore plus intéressant. Par exemple, les sujets de justice, de gouvernance, quand on est à 30 et que c'est à nous de les construire, ces sujets-là, c'est à nous de créer notre justice, notre gouvernance, ben on se rend compte que c'est pas pour rien que dans un pays, il y a une constitution, des lois, avec des pavés et tout ça. En fait, faut qu'on réfléchisse à tout ça aussi, et c'est complexe. Et c'est tous tes sujets à interprétation tout le temps. Et...
Ouais. Parce que vous dites votre justice, c'est-à-dire que quand il y a un conflit entre deux voisins, tout le monde participe pour résoudre ce conflit ?
On essaye. Tout le monde, non, parce que tout le monde est impliqué différemment. Il y en a qui n'habitent pas encore là, il y en a qui ne sont pas trop impliqués, il y en a qui sont très impliqués, donc ouais. Tout le monde, non, mais on essaye que ça soit participatif quand même.
J'ai appris qu'il y avait une école Montessori, où il y a une école norme, entre guillemets, classique. Et vos enfants, ils vont à quelle école ?
Non, moi, ils vont à l'école publique du village, qui est très bien aussi. Ma compagne, elle est professeure des écoles à La Loupe, à 10 km, dans le public aussi. Et on aime bien le public. Et dans l'éducation nationale, ils font quand même pas mal d'efforts en ce moment pour au niveau Montessori, tout ça, en fait, ils font aussi. Voilà. Mais l'école Montessori est très bien aussi, hein, je pense, pour des enfants qui ont plus de difficultés à s'intégrer dans le système classique ou pour vivre une vie plus communautaire dès le plus jeune âge, pour former des enfants finalement à un nouveau paradigme que celui de la compétition, on va dire, ouais. C'est quand même peut-être plus approprié encore que l'éducation nationale. Mais l'éducation nationale, ils font des gros efforts. Hein.
Qu'est-ce qui va se passer dans cette maison commune ?
C'est pour nous, en fait, quand on fait des événements, je sais pas, notre anniversaire, des réunions, on essaye aussi d'amener de la vie, on regardait des films ensemble, ou des débats ensemble, on pourra les faire là. Après, à l'étage, il y a les chambres d'amis, donc on a chacun un nombre de nuitées définies pour l'année, là, une vingtaine, je crois. Et on pourra accueillir nos parents, nos amis.
Par exemple, j'aurais pu dormir ici, moi qui dors chez l'habitant, j'aurais pu être hébergé à l'école.
Voilà, soit vous êtes invité par quelqu'un, soit vous payez aussi, on a un prêt qu'on va autofinancer en louant nos chambres aussi.
Et alors c'est combien la nuit ici ?
Alors là, je crois que c'est autour de 50 euros, mais je ne suis pas du groupe justement qui gère ça. Ouais.
Ok. Bon, bah super. Bah écoutez, je vous souhaite de vivre votre rêve, hein, Abel, et qu'il n'y ait pas de nuages, même s'il pleut en ce moment, mais bon, ça, c'est pas grave, ça.
Ah, si, il y a des nuages, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi.
Bon, bah, en tout cas, merci, et puis c'était un plaisir de découvrir cet endroit, et je vous laisse continuer votre travail.
Hop. Et la particularité, c'est que les murs sont isolés avec de la paille. Hein. La plupart des maisons ici... Les murs sont isolés avec de la paille.
C'est ça, je vois l'épaisseur, ça fait quoi, 50 cm au moins.
Ouais, c'est ça.
Et donc là, il n'y a aucun chauffage, il fait hyper bon dans la maison.
C'est ça, ouais. Et là, on a des enduits en argile.
Et ça coûte combien de construire une maison justement avec ce genre de produit ?
Ça coûte dans les 3000 euros du mètre carré.
Tout compris.
Tout compris.
Je vous laisse travailler, Abel. Merci. Hein.
Salut.
Si vous voulez en savoir plus, vous tapez ecohamoduplessis.fr. Et bien, c'est dans cet écohameau que se termine la balado. Mais on se retrouve dès demain, 6h, pour les plus courageux. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bonne balade à tous. Ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.